Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
C'est quoi pour toi la réussite ?
Oh bah clairement, c'est d'être à sa place. Hein. Ça faisait quelques années, j'ai adoré mes clients chez Planète, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant bientôt 13 ans. Mais je reconnais que ça faisait quand même quelques années que j'avais, non pas fait le tour de la question, parce que ça voudrait dire que je savais tout sur tout, c'était pas ça, mais que j'avais plus envie. J'avais beaucoup moins envie et que j'avais vraiment, j'y trouvais plus beaucoup de sens. Alors, attention, je pense pas qu'il faille que tout le monde fasse de l'écologie, fasse des savons solides, fasse que des trucs, tu vois, qui vont, voilà. Mais j'avais beaucoup moins envie et donc, mais sauf que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je ne sais rien faire d'autre que de la communication. Je ne sais rien faire d'autre. Et puis voilà, jusqu'au cabas.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix.
Je suis très heureuse de participer à cette première édition du podcast. L'occasion pour moi de mettre à l'honneur la fondatrice de l'association Un cabas pour un étudiant. Après une carrière de commerciale, Marion se réoriente dans le marketing. Après plusieurs années en tant que salariée, elle ose quitter son CDI pour lancer son agence de communication. Alors qu'elle fait ses courses en janvier 2021, elle a une prise de conscience sur la précarité de certains étudiants. Et là, c'était parti pour la formidable aventure de l'association. Aujourd'hui, Marion dédie 100% de son temps à l'asso. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marion de Lisigalzi. Bonjour Marion.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Alors, ça a été une vraie question parce que je suis pas quelqu'un de très attaché au matériel. J'ai des petits objets chez moi, comme beaucoup de gens, qui sont des souvenirs et auxquels je tiens. Et que si je devais peut-être m'enfuir de ma maison en feu, j'arriverais à les glisser dans ma poche. Mais globalement, j'ai plutôt choisi un objet qui représente un peu plus ce que je suis et ce que je suis devenue ces dernières années. C'est mon sac à main. Parce que en réalité, pendant des années, j'ai eu plutôt des sacs qui étaient un peu grands, dans lesquels je mettais plein de choses, et puis ils devenaient très lourds, et je me rendais compte que la moitié de ces choses-là, je n'en avais pas forcément besoin. Et depuis peut-être 3-4 ans, j'utilise des petits sacs en bandoulière, c'est devenu la grande mode des sacs en bandoulière, donc des sacs qui sont pas plus grands, je dirais que peut-être un format A5, pour représenter un peu pour les auditeurs, et je me rends compte que ce que je ne mets dedans que ce qui rentre, bien sûr, et je me rends compte que finalement, ça me suffit largement. Donc, cette espèce un peu de minimalisme représente, voilà, un peu le parcours de ces dernières années où je suis de moins en moins attachée à ce qui peut m'entourer en termes d'objets.
Et puis, c'est un beau clin d'œil avec le nom de ton association où c'est un cabas.
Ah bah oui, bravo. Effectivement.
Avant de parler de ton association, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi?
Alors, j'ai grandi à Lyon, dans un très joli quartier qui est un peu un village dans la ville qui s'appelle le Point du Jour. À Lyon, il y a deux collines, la colline de Fourvière et la colline de la Croix-Rousse. On appelle ça, les Lyonnais qui nous écoutent ou ceux qui ont vécu reconnaîtront, on appelle ça la colline qui prie et la colline qui travaille. Donc moi, je suis née sur la colline qui prie, pour autant, je suis une très grosse travailleuse.
Et quel type de petite fille tu étais ?
C'est une question qui est très intéressante parce que pendant très longtemps, je n'ai pas eu du tout de souvenir de mon enfance. Bon, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'aille travailler, je ne sais pas. Mais en regardant les photos, beaucoup de photos ces dernières années, malgré tout, ça m'est beaucoup revenu en mémoire et puis on m'en a parlé. J'étais une petite fille très joyeuse. Alors, j'étais une petite fille très garçon manqué parce que je crois que mon papa, enfin, je sais que mon papa rêvait d'avoir un garçon. que j'ai une sœur aînée. Donc la première, ça a été une fille, Christelle, et puis après est venue Marion. Et donc Marion, petite sur les photos, tu la vois avec des pantalons, des gros pulls et des cheveux courts. Mais j'étais une petite fille très joyeuse, assez calme, curieusement, jouant pas mal toute seule, et puis très souriante, voilà, et un peu espiègle aussi quand même.
Et c'était quoi tes rêves de petite fille ?
Alors, je me souviens pas vraiment d'avoir eu des rêves sur mon avenir de façon très précise, mais je me souviens que quand j'étais petite, j'ai eu une période où je voulais devenir bonne sœur. Ça a duré une petite année. Je me souviens que je devais être en CE1 ou quelque chose comme ça. Bon, ça m'a assez vite passé.
Qu'est-ce qui t'attirait dans le fait d'être bonne sœur ?
Je pense qu'il y avait un... je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la connexion. Je me souviens que ce que j'étais dans une école privée catholique et on avait la messe chaque semaine. On avait un prêtre qui nous faisait le caté, etc. Et je me souviens des chants, d'ailleurs, que je ne retrouve pas les rares fois où je vais à l'église. Alors, j'y vais plus trop, mais les rares fois où je vais à l'église, je les retrouve pas forcément, ces chants. Mais je me souviens d'espèces d'envolées musicales qui me transportaient. J'avais envie d'y croire, en tout cas, il y avait quelque chose, je sais pas, que je trouvais assez flamboyant. Pardon. Voilà, qui m'emportait comme ça. Bon, après, je me suis bien rendu compte que la foi était quand même pas vraiment, vraiment là. Donc voilà, ça a pas duré très longtemps. Et il y avait aussi autre chose. Je me souviens très bien, petite, je devais avoir peut-être entre 7 et 9 ans. Dans ma chambre, je fermais les volets. Maman avait des pareos. Donc, je lui prenais des pareos. Je me mettais en maillot de bain, en pareos. J'allumais des bougies, t'imagines, à 7 ans dans ta chambre toute seule. Et j'installais toutes mes poupées sur des chaises. Et je faisais la classe et je m'imaginais être à Tahiti, en fait. Et donc, j'avais cette envie quand même déjà de chaleur, de mer, c'est toujours le cas, hein, et de rêve de loin quand même, de vivre quelque part lointain, de façon lointaine. Et donc, j'habite toujours à Lyon.
Bref, j'habite à Lyon. Juste, il faut que tu fasses attention, t'as le micro qui frotte sur ton chemisier.
Pardon.
Hop. Du coup, ouais, un rêve d'évasion. Et est-ce que t'as voyagé ?
Alors oui, j'ai voyagé. Je suis partie à 21 ans après mes 2 années d'études. Je suis partie vivre 1 an aux États-Unis. Je suis partie comme jeune fille au pair à l'époque en 92, 80. Ouais, c'était ce qui se faisait pas mal. Voilà. Donc et puis après, j'ai revoyagé un peu, soit en famille ou avec les enfants. Voilà. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire tout le temps, en fait.
Donc déjà, tu avais une connexion avec les enfants, parce que bon, être jeune fille au pair, faut être courageuse quand même.
Ouais, alors je m'occupais d'une petite fille, Morgane, qui avait 4 ans, qui était adorable, qui était une petite fille adoptée, que j'ai d'ailleurs, j'ai reconnecté avec ma famille quand Internet est vraiment arrivé dans les foyers, il y a peut-être une grosse vingtaine d'années. Je me souviens, je les ai recherchés, je les ai retrouvés, je les avais appelés sur Skype. Ils sont venus me voir en France.
Génial.
Il y a quelques années. Et elle est venue passer également une semaine à la maison. Ouais, c'était trop bien.
Trop chouette. Et au moment des études, ça s'est passé comment pour toi ?
Alors, au moment des études, moi, j'avais des parents qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas question. Papa m'avait bien dit qu'il ne paierait pas d'école privée et que c'était pas possible de partir dans une autre ville pour pouvoir réaliser des études. En même temps, pour être très honnête, je crois pas que j'étais vraiment faite pour faire de grandes études. J'étais pas très travailleuse. J'ai eu pas mal de facilité à l'école, ce qui m'a pas du tout donné le goût du travail scolaire, alors que quand on me connaît, quand on voit ce que je suis capable d'abattre comme boulot depuis que je suis dans la vie active, c'est quand même y a quand même un vrai gap. Donc j'ai fait un DUT Techdeco à Lyon, et donc c'était, ça dépendait de l'université, hein, donc ça n'était bien évidemment pas payant. J'ai fait un bac plus 2 et pareil, j'ai pas énormément travaillé, c'est quand même une époque où j'ai beaucoup fait la fête. J'ai eu quand même mon DUT et très rapidement, les professionnels que je rencontrais dans le cadre de mon DUT m'ont dit, mais Marion, vous êtes faite pour aller sur le terrain, aller bosser, continuez pas. J'ai eu un petit regret quand même, j'ai eu plusieurs regrets pendant des années derrière, un peu le syndrome, tu sais, de j'ai pas le diplôme bac plus 5 comme tout le monde, qui est quand même un peu la carte à avoir. Mais voilà, j'ai beaucoup appris sur le terrain.
Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier ?
Alors, papa était visiteur médical. Il a été visiteur médical à l'Institut Mérieux toute sa vie, alors qui ensuite a changé de nom. Mais et puis maman était alors. Il faudrait pas qu'elle se retourne de là où elle est. Je vais faire bien attention parce que j'avais des consignes, tu sais, à l'école quand on est petit, on doit écrire sur des fiches le métier des parents. Et donc maman me disait, je vous interdis de mettre sans emploi, vous mettez mère au foyer sans feuille de salaire. Maman, de là où tu es, je continue de dire la même chose, ne t'inquiète pas.
Que du coup, t'as une sœur?
J'ai une sœur aînée, ouais, Christelle, dont je suis très proche et que j'embrasse bien fort si elle nous écoute. Et qui a pas tout à fait 3 ans de plus que moi.
D'accord. Donc là, tu as ton DUT, tu pars un an en jeune fille au pair.
Oui.
Quand tu reviens en France, comment ça se passe?
Ah bah là, c'est horrible. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai vécu un an loin de mes parents, dans une famille certes, mais voilà, vivant une expérience. Et puis, il faut se souvenir quand même que 92, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les téléphones portables. J'appelle mes parents le jeudi après-midi, je me souviens. Le jeudi, plutôt dans la matinée, parce que chez eux, on avait, je crois, 7 heures ou 8 heures de décalage, pendant 5 minutes. On est en francs. À l'époque, je crois qu'on paye 17 francs la minute. 17 francs, c'est quoi? C'est 2 euros, 3 euros, enfin, quelque chose comme ça, tu vois, t'imagines. Et mes parents ont pas beaucoup de moyens. Autant te dire que ça dure, tu vas bien, t'es pas malade, non, que tout va bien, voilà, terminé. Et donc, quand je reviens chez mes parents, d'abord, je trouve que tout est tout petit. Les murs sont très très près de moi, mais forcément, quand tu vis en Californie, tout est immense. Et je me dis surtout, il va pas falloir que je reste trop trop longtemps. Donc là, je trouve un job pendant 6 mois de commerciale itinérante et je vends des pulvérisateurs de jardin dans les grandes surfaces spécialisées jardinage. Imagine un peu, j'ai 23 ans et je parcours le Grand Sud-Ouest dans ma Clio sans clim, voilà, en écoutant Sud Radio. Donc à 23 ans, je peux te dire, quand t'es tous les soirs à l'hôtel toute la semaine, c'est chaud quand même.
Mais t'étais pas chez papa et maman.
Mais j'étais plus chez papa et maman.
Ouais. Et après?
Et donc après, j'ai passé une année comme commerciale à Paris, dans l'univers de l'édition et de la carte postale pour une marque qui à l'époque avait un énorme succès, c'était les Petites Souris d'Idole. Et puis bon, je me suis rendu compte que la vie parisienne n'était absolument pas faite pour moi. Je suis désolée, je sais que toi tu y es passé aussi. Et je suis revenue à Lyon et j'ai intégré, si mes souvenirs sont bons, le groupe Accor. Toujours en tant que commerciale, donc je vendais de l'hébergement, du séminaire, etc. Et puis assez rapidement, j'ai eu envie de passer quand même un peu en amont de la vente, donc sur le marketing, la communication. Alors c'était pas facile parce que je n'avais pas de diplôme à proprement dit marketing, mais
ni voilà, l'expérience, parce que même si t'as le diplôme, si t'as pas l'expérience, on se dit
absolument. Absolument. Donc là, on est au début des années 2000, je crois que, et j'intègre, ouais, ça doit être 2000 ou 2001, parce que j'avais encore pas ma fille, et donc j'intègre une entreprise, j'intègre le service marketing d'une entreprise, mais avec des fonctions un peu floues. Donc du coup, c'était tellement flou que j'y suis pas restée très longtemps, mais ça m'a permis quand même sur mon CV de pouvoir marquer quand même que j'avais fait du marketing, parce que je bossais avec des chefs de produits. Et c'est comme ça que l'aventure marketing-communication, mais après plutôt communication, a démarré.
Après, du coup, c'est là où tu es allée chez Inès CRM?
Pas du tout, non. Je suis passée dans une entreprise qui faisait du matériel médical et de la prestation médicale à domicile, qui s'appelle LVL Médical. J'ai passé 3 ans, donc là, vraiment au service marketing et communication, sous la direction d'une directrice du service. Et donc, j'étais chargée de com et de marketing. Et là, j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. C'était une chouette expérience. Et puis, donc, c'est là où j'ai eu mes enfants. J'ai essayé de faire une pause ensuite, de me dire que je pouvais peut-être un peu passer un peu de temps à la maison à m'occuper de mes enfants. Et très rapidement, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout fait pour moi. Donc, je suis vite retournée travailler.
Tu as fait une pause de combien de temps?
J'ai fait une pause d'un an, je crois. Pas tout à fait un an. Et là, j'ai rejoint l'univers oui, tout à fait, d'Inès, tu as raison, le CRM, à l'époque où le cloud était quelque chose de très abstrait pour l'ensemble du monde, hein, je rappelle.
C'est clair.
Absolument. Et c'est là où j'ai passé presque 7 ans chez un éditeur de logiciels. À l'époque, on appelait ça l'ASP, ensuite du SaaS et maintenant du cloud. Mais effectivement, et là, j'étais responsable de la communication.
C'est drôle parce que toutes les deux on a évolué, on était un peu concurrents quand même à un moment donné vite fait. Bon,
pas tout à fait sur l'offre, mais effectivement en tout cas on évoluait dans un peu du commun des mortels,
on était concurrents mais on l'était pas vraiment. Et à l'époque le logiciel il y a très peu de gens qui travaillaient dans l'univers du logiciel. Je sais que là aujourd'hui dans mon entourage, je pense que j'ai 70% entre mes cousins, mon frère, mon ex-mari, mes amis, tout le monde travaille dans le logiciel. Mais c'est vrai qu'à l'époque on était c'était une niche.
Ouais, absolument. Mais c'était passionnant. Moi j'ai toujours dès le début de d'internet, quand c'est arrivé dans les foyers, dans les entreprises, dans les foyers, j'ai toujours été ultra connectée. J'en connais et on y viendra les effets aussi néfastes sur notre société, mais je suis quand même très connectée, je l'ai toujours été, je suis assez passionnée par ce qui se passe. Alors je code pas évidemment, mais je suis quand même capable d'aller un peu dans le code, faire 2-3 petites choses et de comprendre un peu ce qui s'y passe. Ça m'a énormément formée là-dessus. Et puis moi j'ai fait de la communication et du marketing sans réseaux sociaux, sans Sendinblue et Mailchimp, sans éditeur, enfin tu vois, on faisait des trucs tout à la mano quoi. C'était t'apprends dans le dur quand même.
C'est clair, oui. Il fallait à l'époque, pour avoir les idées, il fallait se débrouiller pour pouvoir avoir les moyens de les développer, quoi.
Il fallait avoir des idées, il fallait pas attendre que Canva te propose des modèles, quoi. C'est sûr.
C'est ça. C'est sûr. Et tu restes quoi, 6 ans et demi chez Inès?
Ouais, presque 7 ans, ouais, tout à fait. Et puis un jour, les enfants ont 7 et 9 ans, je crois, donc Marie et Benjamin. Et je sens qu'il est temps pour moi. Je leur ai consacré quand même, tu vois, toutes ces années à m'assurer, voilà, les trajets à l'école, les activités. Et là, je me dis. À l'époque, le père de mes enfants, avec qui je suis toujours mariée, a monté sa boîte 6 ans plus tôt dans l'immobilier.
Avec qui t'es toujours mariée à ce moment-là?
À ce moment-là, ouais. Oui, tout à fait. Et donc je me dis, j'ai envie de changer. J'avais pas de budget dans la boîte dans laquelle j'étais. Il n'y avait pas de budget communication parce que le dirigeant trouvait la communication, pensait que c'était quand même un mal nécessaire, la communication, tu vois, à peu près. Quand t'es responsable comme, c'est quand même compliqué. Le seul budget, c'est à peu près ton salaire et un ou deux salons dans l'année. Donc, c'est même quand t'es créatif, il y a quand même un moment donné d'investir un peu. Et, je sais quand même qu'à ce moment-là, avec tout ce que j'ai acquis, je suis capable d'aller dans une boîte, tu vois, comme Dircom. Alors, pas dans un grand groupe, évidemment. Je vais pas devenir Dircom de LVMH. Soyons quand même très, très raisonnables et très humbles. Mais en tout cas, d'une PME. Mais je me dis que, par rapport à la vie que j'ai quand même envie d'avoir, notamment en tant que maman, parce que c'est quand même un deuxième job, non rémunéré certes, mais un deuxième job, j'ai quand même envie de garder une certaine qualité de vie. Je me dis que ce que ça va me demander comme sacrifice et comme pression, j'ai pas envie de le subir. On est déjà, ouais, on est en 2010, et donc je me dis qu'en fait, je vais me créer mon job, ce que se disent énormément de jeunes aujourd'hui. Mais en 2010, je me dis, mon métier, je vais me le créer. Et ben, en fait, je vais monter mon agence. Donc, mon métier, ça va s'appeler une agence, si je suis indépendante. On n'appelle même pas ça freelance à l'époque. Ah. Les freelances, c'est les graphistes, c'est les vidéastes, tu vois, c'est les directeurs artistiques. Mais si tu veux piloter du projet, t'es une agence. Je repars à l'école, 6 mois, pour apprendre à utiliser les logiciels de la suite Adobe, Illustrator, InDesign, voilà, la PAO. Non pas pour devenir moi-même graphiste, mais pour être capable de mieux comprendre ce que vont expérimenter et les besoins de ceux qui vont être mon équipe, de pouvoir potentiellement mettre un peu les mains dans le cambouis s'il y a besoin, et puis aussi que quand j'achète de la prestation auprès de freelance, bah, que s'ils me disent « bah là, il me faut 3 jours », je lui dise que peut-être que je sais qu'il ne faut pas 3 jours.
Ouais, t'es un peu marseillais.
Voilà, ça m'est pas vraiment arrivé, mais voilà, en tout cas, voilà. Donc, mais j'aime aussi, quand je vends quelque chose, j'aime savoir comment il fonctionne.
Ouais. Voilà. Bah oui, c'est le côté start-up, start-up. À l'époque, on parlait pas de start-up, on parlait plutôt de PME, mais le côté en effet où tu mets les mains dans le cambouis et
exactement.
De toute façon, si tu veux être bonne dans ton job, tu n'as pas le choix de mettre les mains dedans.
Ouais, puis même de fabriquer un petit peu moi-même, parce que forcément, la marge est pas la même. Donc il y a eu des moments effectivement où je suis chez certains clients quand c'était les plaquettes se renouvelaient, étaient assez récurrentes, voilà, il y a eu des moments où je l'ai fait moi-même parce que ça m'éclatait aussi de le faire. Ouais. Ça changeait un peu juste la gestion de projet, de la vente et de la gestion de l'entreprise.
Et à ce moment-là, du coup, quand tu fais cette formation de 6 mois, c'est une formation à temps plein ou c'est quelques heures par semaine?
C'est 3 jours, je crois. Je crois que c'est 2 ou 3 jours par semaine pendant 6 mois.
Ah, c'est costaud quand même.
Ouais. Il me semble que c'est ça. Je me la paye avec mon argent. J'installe mon bureau dans une pièce au sous-sol de la maison qu'on a à l'époque.
Il n'y avait pas le CPF à cette époque-là.
Je sais pas si j'en avais. Non, mais je suis sûre de l'avoir jamais fait prise en charge. Ça, c'est sûr. Mmh. J'avais dû payer ça, je crois, 1200 euros, il me semble, ce qui était une somme importante pour moi. Et donc, je commence déjà à avoir un ou deux clients en même temps. Ça démarre assez vite, mais bon, pour être tout à fait honnête, à l'époque, voilà, je suis mariée. Mon mari a une grosse activité qui se développe pas mal. Donc, non pas que le salaire ne soit pas un sujet, parce que quand même, d'abord, j'ai besoin psychologiquement, tu vois, intellectuellement, de participer. Néanmoins, j'ai pas besoin d'être support de famille. Donc, il faut quand même être rendre à César ce qui est à César, et je le remercie. Et je remercie Franck. Je pense pas qu'il écoutera ce podcast, mais
Franck, si tu nous écoutes, on t'embrasse.
Voilà, exactement. Je le remercie parce qu'il a été quand même, tu vois, vraiment support de famille, mais aussi support. Tu vois, je vais chercher les enfants à l'école à 4h30, à 8h30 une fois que tout le monde est couché. Enfin, pas mon mari, mais les enfants. Je redescends au bureau jusqu'à minuit, je bosse quand même comme une dingue. Et en plus, je suis sur place, ce qui est un peu le piège quand tu travailles.
Ce qui est pratique, mais d'un autre côté…
Mais ça permet de combiner quand même à la fois une vie de mère de famille, qui est quand même une responsabilité. Quoi. J'ai fait des enfants, j'ai quand même envie de m'en occuper un peu. Et puis très rapidement, au bout d'un an, je prends un bureau parce qu'en réalité, le rythme ne me va pas du tout. D'être à la maison, les enfants à 4h30 viennent me voir, me sollicitent tout le temps. Il y a la machine qui sonne, il faut l'étendre. Non, ce n'est pas du tout mon truc.
Et au moment où tu te lances, c'est quoi tes peurs? Tu quittes un job salarié?
Non, j'ai pas peur. Pourtant, j'ai jamais eu une âme de chef d'entreprise. Souvent, j'entends quand les gens disent « Mais est-ce que tu as toujours pensé que tu seras entrepreneur ?» Pour moi, entreprendre, c'est vraiment la définition générique de ce que tu entreprends. Avoir des enfants, c'est entreprendre. Organiser une soirée ou un voyage, c'est entreprendre. J'ai toujours entrepris. J'ai toujours pris le leadership des projets de groupes communs, qui soient familiaux, des projets de vacances de copains. Donc, j'ai toujours entrepris. Je suis une faiseuse. J'ai une idée où on a envie de faire un truc, je prends le lead et c'est moi qui, très souvent, c'est moi qui gère. Quitte à pas laisser de la place aux autres à l'époque. En tout cas, maintenant, j'en laisse beaucoup plus. Mais à l'époque, je reconnais que je laissais pas forcément beaucoup de place. Mais est-ce que j'avais une âme de chef d'entreprise? Pas du tout. Dans ma famille, personne n'était chef d'entreprise. Personne, à part le mari de ma sœur. Mais mes parents, pas du tout. J'avais des profs dans ma famille. On était plutôt sur quelque chose d'un peu cool et un peu sécure. Et alors, mon père, quand je lui dis que je vais monter ma boîte, alors là, c'est le drame. Mais mon Dieu, le risque absolu. Non, moi, j'ai pas peur parce que, voilà, je suis... Franck est là et je me dis au pire, si ça marche pas. Bah, tu vois, test and learn, quoi. Voilà, non, j'ai pas peur. Non, j'ai vraiment pas peur.
Et comment tu fais du coup pour trouver tes premiers clients?
Le réseau. J'ai 40 ans. Enfin, j'ai 39 ans en 2010. Voilà, 39, 40 ans, j'ai déjà un réseau. J'ai d'abord des clients de la boîte de CRM dans laquelle je bossais, qui sont mes premiers clients. Et puis de bouche à oreille. Et puis au début, c'est un logo, c'est une plaquette, c'est un site web. Et puis celui à qui t'as fait le site web revient de voir pour refaire ses plaquettes. Donc j'ai eu les copains. Je suis communicante, donc je commence à utiliser pas mal les réseaux sociaux, beaucoup Facebook. Je sais pas, j'ai un client, une grosse boîte de plomberie à Lyon qui a une cinquantaine de salariés. J'ai été pote avec lui quand j'avais 17 ans. Il me retrouve sur Facebook, il me fait bosser pendant 6 ans chez son agence de com. Ah, tu vois, enfin, donc ouais, beaucoup de réseaux parce que je suis une femme de lien et je suis une femme de réseau. Le réseau du réseau, le premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle.
Bah d'ailleurs, on se connaît toutes les deux parce que je suis une très très bonne amie du frère de ton ex-mari. Absolument. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure hors micro, c'est qu'en effet, on est resté en contact alors que vous êtes séparés et qu'on s'est pas vu physiquement toutes les deux depuis très longtemps.
Absolument. Mais on reste en contact.
Voilà. C'est ça qui est chouette.
Ouais, je suis une femme de lien, donc, d'ailleurs, ce que les gens, mon agence s'appelait Planète, ce que les gens venaient acheter, c'était pas tant Planète, c'était plutôt Marion de Zigelzi, mon expertise, ma façon d'être, ma façon de les rassurer, d'accompagner des projets, etc. C'était surtout ça.
T'as recruté dans dans ton agence?
Alors, les premières années, j'avais un modèle dès le départ qui était plutôt celui d'une équipe de freelance qui sont restés les mêmes jusqu'à la fin. Donc ça, c'était vraiment chouette, mais c'était des freelances. Et puis, à un moment donné, je me suis essayée à l'association. Ça n'a pas fonctionné, mais pour des raisons… alors, le choix de l'associer, mais ça n'est en aucun cas une critique de ce qu'elle est ou de ce qu'elle était. pas du tout. Je pense que ça a coïncidé en fait avec ma séparation, et je pense que le choix de l'associé et du modèle était piloté par des choses qui étaient pas justes, tu vois, qui étaient pas à leur place à ce moment-là. Donc aucune critique vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de moi, on s'est trompé toutes les deux, on n'était pas à la bonne place au bon moment, les bonnes personnes pour s'associer à ce moment-là. Et ensuite, j'ai recruté effectivement une personne que j'avais eue en alternance. Donc je l'ai recrutée en CDI, donc ça c'était une grande fierté pour moi. Et puis elle s'est rendue compte au bout d'un an, un an et demi, qu'elle s'était trompée de métier. Voilà, donc ça a été un peu compliqué, je reconnais.
Pourquoi?
Ça a été dur. Bah parce que c'est un investissement quand même, le salariat. Tu prends quelqu'un, tu vas en alternance, et puis ensuite bah tu paries quand même. Hein, t'as eu des salariés, tu sais ce que ça coûte. Le temps de formation, il a un coût. Et quand la personne est bien lancée, qu'elle est bonne, qu'elle est bien
formée,
et qu'elle te dit, eh ben en fait je vais partir, mais enfin ça serait bien plutôt que tu m'aides à partir, tu vois. Ça c'est compliqué. Ça j'avoue que le format, ouais là c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un petit sentiment, ouais, de te dire, tiens, si j'avais su. Et puis en fait, après, tu te dis, mais non, en fait, c'est la vie. Moi aussi, je l'ai fait, et c'est ok. Et puis, tant mieux pour elle. Aujourd'hui, je suis un peu en contact avec elle encore. Elle s'éclate. Elle est dans la brocante et tout. Elle chine, tu vois. Elle est vraiment passionnée par ça. Donc, à des années-lumière du community management, voilà. Et je l'embrasse, tu vois, si elle nous écoute. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Non, j'ai vraiment pas de regrets. Mais du coup, après, je n'y suis pas retournée.
Ouais, c'était la question que j'allais te poser.
J'ai continué avec mes freelances. Ouais, tout à fait. Absolument.
Aujourd'hui, si on se parle dans le cadre du podcaston, c'est parce que tu as créé une association. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée?
Oui, alors l'idée est née très exactement le 3 février 2021, autour de 18h. Ça fait un an qu'on est en crise pandémique. Ça fait plusieurs semaines qu'on voit tourner à la télé des reportages sur le drame que vivent les étudiants, à savoir être obligés de se nourrir en allant faire la queue dans la distribution alimentaire. Ils sont près d'un million à tomber dans une grande précarité alimentaire, psychologique et sociale. Il n'y a plus aucun job étudiant. Hein. Les restaurants, les bars, les boîtes, tout est fermé. C'est l'enfer. Enfin, il y en a encore qui bossent un peu, ok. Mais c'est quand même
à la marge.
Très à la marge. Alors, je vois ces reportages. Ça m'émeut, évidemment, mais ça me met pas forcément en marche. Mais ce jour-là, le 3 février, je suis dans le super U de mon quartier et j'habite dans le centre-ville de Lyon à l'époque. Et je file à la caisse parce que le magasin va fermer. Excuse-moi. Et mon regard croise une jeune fille dans un rayon. Elle a son petit panier en plastique rouge là à ses pieds. Il y a 2-3 produits dedans. Je la vois qui calcule le montant de ses courses sur son téléphone portable. Je vois son addition. Hein. Et tu sais, les écrans sont grands. Alors, j'ai beau être un peu presbyte, mais hop, je vois quand même avec mes lunettes. Et je la vois qui repose son paquet de sucre. C'est furtif, hein. J'arrive à la caisse et là, je me rends compte à quel point l'image m'a perturbée et je me dis, je regrette immédiatement de pas être allée la voir et de lui avoir proposé discrètement, tu vois, l'aborder et de lui dire, je vois qu'en ce moment, il y a plein de gens qui ont des difficultés, est-ce que je peux t'aider? Bon, je me retourne, il y a 10 personnes derrière moi, faut que je sorte du magasin, je la retrouverai pas. Et sur le chemin, je me dis, mais des comme elles autour de chez moi, ils sont enfermés dans leur chambre, leur studio, il y en a plein. Et là, je parle des étudiants qui sont pas chez leurs parents, évidemment. Et puis je vais pas pouvoir. D'abord, comment je les trouve? Je vais pas les frapper à toutes les portes du quartier.
Parce qu'à cette époque-là, ils ont quel âge tes enfants?
2021, Marie a 20 ans et enfin pas encore 20 ans, donc 19 ans et Benjamin 17.
Ouais, et sachant qu'ils vivent chez toi.
Absolument.
Donc t'es pas confrontée à ça toi dans ta vie à toi.
Non, moi je suis confrontée à ma fille qui s'est effondrée littéralement, qui a arrêté ses études et qui est en année sabbatique, en mode plutôt un peu dépression, vraiment difficile. Bon, après elle a repris des études, mais ouais, ça a été très compliqué. Donc non, il me parle. Moi, je suis vraiment plongée dans mon boulot, donc faut quand même que je maintienne la boîte, donc de mon agence. Donc il me parle. Je pense qu'ils la voient, la difficulté, ils en parlent un peu à la maison, mais c'est pas vraiment un gros sujet. Et donc, sur le chemin du retour, je me dis, ces jeunes, ils sont en galère. Comment je fais pour les trouver? Ils sont enfermés chez eux. Je peux pas aller devant les facs pour proposer d'aider. Et puis, à moi toute seule, je vais pas y arriver, surtout.
Ouais, et puis t'as la notion d'ego, de dire, de vouloir accepter l'aide. Enfin, c'est compliqué, quoi.
Ouais, alors j'en suis même pas encore là. J'ai 500 mètres pour rentrer chez moi, Charlotte. Pendant les 500 mètres, je me dis, dès comme elle, il y en a plein autour de chez moi. Comment je fais pour les trouver? Et de toute façon, je vais pas pouvoir les aider toute seule. Et dès comme moi, je suis sûre qu'ils ont envie d'aider, il y en a plein. Mais comment je fais pour rassembler ceux qui ont envie d'aider et ceux qui ont besoin d'aide, les étudiants? Et comme moi, dans mon job, des projets web, de sites web, on en fait toute la journée, je me dis, bah, en fait, je vais faire un formulaire en ligne. Il y a une chose que tout le monde a appris depuis un an, c'est à utiliser Internet. Ça, c'est clair. Et donc, les gens vont s'inscrire. Et puis, bah, voilà, je vais les faire, je vais faire matcher, quoi. Je rentre à la maison, j'en parle, voilà, tout le monde trouve l'idée dingue. Et le lendemain, je déjeune avec une de mes copines, Anne. Les restos sont fermés, donc elle vient au bureau. Je me souviens, je prépare une salade d'endives pour toutes les deux et on est dans mon bureau. Et je le raconte. Et elle, elle vient de quitter son job. Et elle me dit, bah, j'ai un peu de temps, je vais t'aider. Et donc, à toutes les deux, donc elle, en plus, à l'époque, elle a des compétences assez complémentaires. Voilà, moi, je suis une faiseuse, une communicante, une marketeuse. Je travaille très vite. Je suis un vrai bulldozer. Juste avant, tu vois, le soir, je trouve le nom, je vois le logo, il se fait en une minute. Enfin, tout est ultra simple parce que c'est aussi mon univers. Et elle, elle est beaucoup plus structurée. À l'époque, elle, c'est plutôt les chiffres, tu vois, les stats, donc notamment les fichiers Excel, grâce auxquels on agrège quand même toutes les inscriptions. Parce qu'en 3 semaines, on a engrangé 2000 inscriptions. Donc, on se lance là-dedans. 5 jours après, je sors le site web, le 8 février. En début d'après-midi, et immédiatement, on a les premières inscriptions et les premiers parrainages se mettent en place.
Parce que du coup, le concept, ça, tu peux peut-être expliquer la logique du coup de l'association?
Eh ben, dès le jour 1 et aujourd'hui, ça n'a pas changé, Charlotte. Ça n'a pas changé et je peux te dire que c'est pas prêt de changer. Je pense que c'est aussi ce qui fait sa force et moi, je suis très alignée là-dessus. C'est que le dispositif repose sur 2 piliers. L'aide alimentaire à travers les courses offertes par les parrains et marraines. Attention, ça ne veut pas dire que les parrains et marraines donnent de l'argent à l'étudiant. Les parrains et marraines payent les courses. Soit ils sont seuls et ils donnent les courses à l'étudiant, soit ils font les courses avec l'étudiant et ils règlent les courses. Mais ils ne donnent pas d'argent. Il n'y a pas d'échange d'argent. Et le deuxième pilier, c'est le lien social. Pourquoi ? Parce que nous parrainons des étudiants qui vivent loin de chez eux, dans une autre ville, ils viennent d'une autre ville ou d'un autre pays. Ça n'aura pas échappé à beaucoup de tes auditeurs qui ont des grands-enfants que il y a un logiciel qui s'appelle Parcoursup, qui s'appelait APB avant, qui permet aux jeunes de trouver leur orientation et l'école ou l'université dans laquelle ils vont les faire. Ça a complètement rebattu les cartes. Énormément de jeunes, d'ailleurs j'ai pas de chiffres, mais je suis pas sûre qu'ils existent, enfin ils sont pas publics, sont obligés de changer de ville pour aller faire leurs études. Ça génère de la précarité. Et ils se retrouvent seuls dans une ville dans laquelle souvent ils connaissent personne. Donc loin de chez eux, souvent avec des parents qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, tant au niveau du prix ou de l'école, enfin parce que l'université faut quand même un tout petit peu payer, pas beaucoup, mais des écoles privées, mais aussi
le logement, tout ça, ouais.
Mais bien sûr, du coût de la vie.
La connexion internet et.
Donc ça veut dire que soit ils se disent bah non, je fais pas d'études, mais en même temps Parcoursup leur dit bah dans ta ville il y a pas de place à la fac, donc faut que tu ailles ailleurs, même dans une fac, hein. Et du coup débrouille-toi pour payer tout ça. Donc, le lien social, il était essentiel dès le premier jour. Alors, encore plus à l'époque, parce que ça fait 1 an qu'ils sont enfermés et que on parle un petit peu de la dépression des jeunes, mais pas tant que ça. Il y a eu énormément de suicides, énormément de tentatives de suicide. On n'en a pas parlé tant que ça. Il y a eu 1 ou 2 cas qu'on fait la une des médias, mais c'est tout. Et donc, moi, je veux absolument que les parrains et marraines créent du lien.
Ouais. Ouais, c'est pas juste un côté financier, c'est aussi le côté humain. Soutien dans tous les sens du terme.
Mais la nourriture du cœur.
Oui, bien sûr.
La nourriture intellectuelle. Donc, il y a la nourriture du cabas, ce qu'il y a dans les courses, dans le sac de course, ce qu'on appelle le cabas, qui est un vieux mot d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des gens peut-être qui ne savaient pas ce qu'était un cabas. C'est possible. Les jeunes, probablement. Et je me suis rendu compte qu'après, comme quoi, ça c'est quand même assez inconscient, le mot cabas, il y a un côté un peu suranné, un peu ancien. C'est un peu le cabas de nos grands-mères. Et en fait, c'est, tu vois, le cabas et l'étudiant. Donc, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de parrains qui sont plutôt des personnes de 50, 60 ans. Alors, pas tous, 60, 70 ans. Donc, tu vois, il y a le côté intergénérationnel qui était même dans le nom. Tu vois, tu te dis, j'aurais voulu chercher…
Mais ça, c'est fou parce qu'en effet… Enfin, moi, je vois quand j'ai mis à jour l'identité visuelle il y a 1 an là de Pourquoi pas moi, et j'ai relu tous les docs que j'avais écrits, une plateforme de marque au moment où j'ai lancé le projet. Et tu lis, en fait… Tu lis les choses et tu dis, mais j'ai écrit ça, mais aujourd'hui, je comprends le sens de pourquoi j'ai écrit
bien
ça.
Sûr.
C'est incroyable.
Bien sûr. Il n'y a pas de hasard.
C'est ça.
Donc à l'époque, quand même, souviens-toi, on nous, je veux pas dire on nous bassinait parce que c'était quand même pour une raison très particulière, très précise, et entre autres pour nous protéger. Mais les gestes barrières, si tu veux, c'était, quand même, la rencontre était ultra diabolisée. Ouais. Je passerai sur le fait que est-ce que c'était un peu excessif ou pas, mais en tout cas, c'était ultra diabolisé. Donc on disait pas invitez votre filleule chez vous.
Bah non,
tu mais peux, on ouais. faisait comprendre quand même que. Mmh. Tu vois, on avait des éléments de langage à demi-mot, voilà. Donc, voilà. Alors, on disait, rencontrez-vous dans l'espace public, baladez-vous, passez du temps ensemble. Voilà. Mais tu vois, quand il y avait des parrains et des filles qui nous envoyaient des photos sans masque, on les utilisait pas. Parce qu'on se disait, on va se faire retoquer sur les réseaux sociaux en disant, même si elles sont dehors, elles ont pas de masque. Tu vois, donc c'était vraiment, il y avait une espèce de peur, de psychose comme ça, voilà. Mais en tout cas, il y a eu immédiatement un engouement incroyable. Alors, dû aussi au fait que Anne et moi, on a commencé à publier sur nos réseaux sociaux perso, et on avait toutes les deux 49 ans, et donc 40, je crois qu'on avait 50, un écosystème profilé complètement par un marraine. Donc ça a répondu tout de suite côté.
Vous aviez à la fois le réseau de parents et le réseau de parents marraines.
C'est ça. Alors, le réseau de parents était pas trop le réseau des étudiants. On évolue toutes les deux globalement avec un univers un peu CSP+, tu vois, un peu plus. Il y a des gens beaucoup moins gâtés autour de nous, mais globalement, on est quand même plutôt sur un… Faut reconnaître, faut être honnête. Mais beaucoup de parents marraines, énormément. Donc là, une envolée absolument lyrique des inscriptions parents marraines. Et pour autant, les premières semaines, des étudiants, mais pas non plus la folie. En tout cas, pas autant que les parrains marraines.
Au début, t'avais plus de parrains et marraines que d'étudiants?
Mais évidemment.
Ah, c'est
fou. Quand tu publies sur LinkedIn, j'ai créé une initiative. C'est pas une asso à l'époque, Charlotte. Ouais. C'est pas une asso du tout. C'est une initiative solidaire citoyenne. Ils nous appelaient les mères de famille. Ça nous exaspérait parce que Anne m'avait dit un jour, faudrait qu'on se prenne en photo avec une trottinette à la main et une tranche de jambon, sachant que nos enfants étaient très grands, ça nous insupportait qu'on nous définisse comme des mères de famille, en fait. C'est pas ce qui nous définissait. On était des femmes citoyennes, c'est tout. Et en fait, quand on a publié sur LinkedIn, qui est-ce qui nous a vus? Des profils parrains-marraines. Donc tout de suite, ils se sont inscrits. Mais on n'a pas d'étudiants dans notre écosystème. On en avait pas beaucoup à l'époque. En tout cas, pas qui étaient dans le besoin. Et comme les facs et les écoles étaient fermées, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait imprimer des flyers. Et puis je les ai pris sous le bras et je suis allée dans des distributions alimentaires le samedi matin, notamment des Restos du Cœur, pour distribuer des flyers à des étudiants qui, quand je leur expliquais ce qu'on faisait, me regardaient avec leurs grands yeux et leur sac vide à la main et me disaient « Non, mais c'est gentil, mais j'ai pas besoin, moi. » Et là, j'ai compris que ça allait pas être forcément simple parce qu'il y a de la honte et il y a de la gêne, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est comme ça. Et puis après, le bouche à oreille s'est fait petit à petit. Petit à petit, entre étudiants.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, t'en as un qui dit, regarde, c'est l'exemple, c'est se dire, lui, il l'a fait, donc moi, je peux le faire.
Oui, alors, sachant quand même que même si aujourd'hui, la parole est peut-être un peu plus libre aujourd'hui sur la précarité étudiante parce qu'elle a été beaucoup médiatisée depuis 2 ans, merci au Covid, entre guillemets, d'avoir mis en lumière, alors pas merci d'avoir aggravé, mais d'avoir mis en lumière et aggravé une situation qui, en fait, existait déjà avant. La précarité étudiante, elle existe depuis bien avant le Covid puisque la dernière étude de l'INSEE de 2016 dit qu'un étudiant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Enfin, 2016, on est très loin du Covid quand même.
Ouais. Voilà. C'est clair. Donc là, du coup, ça commence à prendre un peu. À quel moment où tu te dis waouh, c'est en train de partir
Dès le premier jour, en fait. Dès le premier jour, parce que on voit sur nos téléphones les inscriptions qui tombent, mais c'est surréaliste. Pendant 3-4 mois, on a bossé peut-être 17 heures par jour avec Anne. C'était complètement dingue. Tout de suite, je me dis, cette idée que j'ai eue, il y a un truc qui se passe. Une semaine après, je réalise qu'en fait, lors d'une interview avec un journaliste, parce qu'on a été pour le coup, c'était moi qui prenais la parole. D'abord parce que c'était mon idée, donc je l'incarnais tellement que j'en parlais vraiment avec, tu vois, passion et vérité. Et surtout, j'étais la plus communicante des deux. Donc c'était plus simple. J'étais le visage de l'asso et voilà. D'ailleurs, Anne, que je remercie, est plus du tout dans l'asso déjà depuis un petit moment. C'est logique parce que moi, c'est mon bébé. Mais à l'époque, je réalise, je me souviens qu'en réalité, cette idée, elle me vient de mes parents, mais ça a été complètement inconscient. Parce que quand j'étais petite, ma maman, qui était donc mère au foyer, sans feuille de salaire, ouais. Je rappelle, faisait des cabas de course dans notre quartier pour des femmes qu'elle avait identifiées, qui étaient des mamans solo, isolées, et qui étaient vraiment dans la galère. Donc, elle allait, je me souviens, chez Leclerc, qui était en Alain Leclerc dans notre quartier, et au marché, et elle faisait des sacs de course qu'elle leur apportait. Et moi, je demandais ce que c'était, parce que parfois, je voyais des choses dedans qu'on n'avait pas l'habitude, nous, d'avoir. Par exemple, des gâteaux. Maman ne nous achetait pas de gâteaux. Nous, on mangeait du pain et du chocolat. Et elle me disait, non, tu touches pas, c'est pas pour toi, c'est pour madame Intel. Bah, pourquoi? Bah, voilà, parce que, bah, tu vois, elle a pas d'argent, donc on l'aide. Pourtant, mes parents n'étaient absolument pas des gens avec des moyens, pas du tout. On était des gens simples, on manquait de rien, mais on était des gens très simples. Et puis, mes parents ont fait partie pendant 20 ans d'une association que je salue, si jamais un des membres nous écoute un jour, qui s'appelle Lyon International, qui existe toujours. Et pendant 20 ans, mes parents ont accueilli une fois par mois à leur table des étudiants étrangers. L'association avait pour vocation à faire découvrir la culture et la langue étrangère à des étudiants étrangers qui arrivaient, qui étaient un peu seuls. Il n'y avait pas de notion de précarité. Ils en vivaient peut-être derrière, mais il y en avait. C'était pas dans le deal. Mais maman qui adorait recevoir, faire des belles tables, cuisiner, et ben un dimanche par mois, ils ont reçu jusqu'à 8-9 étudiants. Et parfois même j'appelais et je disais, je peux venir déjeuner? Et ils me disaient, ah ben non chérie, on est désolé, il n'y a plus de place. Et mes parents qui ne sont plus de ce monde, j'ai retrouvé dans l'ordinateur de mon père des centaines de photos de ces dimanches où mes parents se prenaient en photo avec le retardateur de mon père, tu sais, sur son appareil. Et c'était incroyable et hyper émouvant. Et j'ai même reçu des appels de ces jeunes, puisque j'avais gardé le téléphone de papa pendant un petit moment après son décès, de ces jeunes qui appelaient pour de très loin, parfois à l'autre bout du monde, qui régulièrement donnaient des nouvelles à mes parents et prenaient de ces nouvelles, de leurs nouvelles. Donc, il a fallu que je leur annonce les mauvaises nouvelles. Donc, clairement, un cabas pour un étudiant, ça me vient clairement de mon éducation et de ma vie.
C'est chouette hein, de voir quand tu prends du recul et te dire c'est fou de se dire que enfin la vie est vraiment un puzzle et
Ouais, et puis encore plus depuis qu'ils sont plus là. Alors, je suis pas là pour ça continue pas parce que je veux continuer de les faire vivre. Ils sont plus là, mais ils sont à côté de moi, peu importe, c'est pas le sujet. Mais c'est pour dire que c'est à sa juste place et c'est pas un hasard.
Non.
Et c'est pas un hasard.
Tu vois, c'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, mais comme tu sais, j'ai créé un bilan de compétences, mais avec un axe vraiment différent des choses traditionnelles, parce que l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de trouver leur raison d'être, leur pourquoi et qu'est-ce qui apporte du sens dans leur vie. Et si quelqu'un me dit un jour, non mais moi, j'ai trouvé ça, et franchement, c'est une grosse surprise. Bah, c'est qu'il y a un problème, c'est pas possible. En fait, c'est ce que je dis, c'est que notre petite voix, elle nous parle. Il y a une douce mélodie de notre petite voix qui nous parle. Et en fait, il y a des petits indices, des petites graines qui sont semées partout. Et puis un jour, bah, ces graines, elles germent en fait.
Il y a une citation d'Aristote que je connaissais, mais qu'en fait, je ne voyais pas vraiment, tu vois, avec un grand V, qui dit, alors je dis ça avec beaucoup d'humilité, hein. Quand vos talents rencontrent les besoins du monde, là se trouve votre vocation.
Exactement.
Alors, j'imagine avoir forcément un peu quelques talents quand même pour avoir réussi.
On a tous des talents.
À la fois créer ça, tu vois. Mais vraiment, en fait, ça définit exactement ce que je vis depuis 2 ans avec le CABA. C'est-à-dire que je suis une femme de lien. On m'a toujours dit, il y a des années, je me souviens, des gens me disaient, mais tu passes ton temps à mettre les gens en lien. Pourquoi t'en ferais pas un business, quelque chose, quoi? Je disais, mais non, en fait, j'aime faire ça et j'ai pas envie de monétiser. Et enfin, voilà, tu vois, et ça me parlait pas. Et j'avais pas l'idée. Et quand je cherchais, je ne trouvais pas l'idée. Donc, c'est que c'était pas le moment, tu vois. Je suis une femme de lien. Je suis une femme extrêmement connectée. Je suis une femme, parce que finalement, le dispositif, il est ultra digital. Puisque tu m'as pas encore posé la question, mais tu vas me la poser. Comment ça fonctionne? Il suffit de s'inscrire sur le site internet si on a envie de parrainer. Il faut habiter, et ça je le précise à tes auditeurs, il faut habiter dans ou très près d'une ville où il y a des étudiants qui, donc plutôt des 40 ou 50 grands, ou 60 grandes villes, tu vois, étudiantes. Ça veut pas dire qu'à Montluçon on ne peut pas parrainer puisqu'on a une marraine et un filleul à Montluçon, je peux te le dire, mais ça va quand même être très, oui, très anecdotique. Si vous habitez à 50 km de Bordeaux, vous avez beau y aller tous les jours pour travailler, le week-end, vous n'avez plus envie d'y retourner. Or, les étudiants, ils habitent dans ou tout à côté de Bordeaux, notamment vers Mérignac, parce que c'est là qu'il y a beaucoup les facs. Si vous habitez très loin de la ville, vous n'avez pas à avoir envie d'y retourner le week-end, or c'est là qu'ils sont disponibles. Donc il y a quelque chose qui va pas fonctionner.
Ouais, disponible, et c'est là où ils ont le besoin, quoi.
Ben c'est là où ils sont le plus disponibles. Alors, il y a des étudiants qui voient leurs parents dans la semaine, on le sait. Mais quand même, la grande majorité, c'est le week-end. Donc, il faut quand même habiter dans ou près d'une grande ville. Si on part tous les week-ends dans sa maison de campagne, bah pareil, peut-être que le parrainage, on peut aider l'association autrement, je te le dirai après. Donc, quand on est prêt, on va s'inscrire sur le site, on remplit le formulaire en tant que parrain, on va recevoir un mail qui va inviter le parrain ou la marraine à s'inscrire à une visio. Sans cette étape, on ne pourra pas parrainer. On a besoin de cette étape un peu de formation.
Ouais, de valider, bien sûr.
Voilà, de formation. Ah, c'est une visio collective, d'accord, mais dans laquelle on délivre tout un tas de messages et d'explications sur comment va se passer le parcours. L'étudiant s'inscrit également, lui, de son côté. Il doit fournir son certificat de scolarité, enfin son certificat universitaire, en cours de validité, bien évidemment. Nous le vérifions. On connaît les facs, hein. On sait reconnaître les... Voilà, beaucoup ont des QR codes, on est capable de les scanner et de les valider.
Donc, évidemment, les petits malins, ça sert à rien d'essayer de jouer.
Alors, en réalité, tu sais, souvent, on me dit, mais est-ce que vous vérifiez vraiment que les étudiants sont en difficulté? Alors, je leur réponds, bah oui et non. Non, parce que si vous me demandez si je suis capable, comme les impôts ou comme la CAF, est-ce que j'ai un logiciel qui est capable de calculer leur reste à vivre? Non, je le ferai pas. Et je ne le fais pas et je n'ai pas la capacité.
Il y a un moment, il y a la confiance aussi, parce que sinon...
Il y a la confiance, puis surtout, il faut bien réaliser quelque chose, c'est qu'un étudiant qui va se retrouver face à un parrain ou une marraine, il porte la casquette précarité quand même. Mmh. Il faut quand même l'assumer, cette casquette.
Oui, c'est pas genre juste... oui, il y a une vraie, comme tu disais tout à l'heure, il y a une vraie notion de lien avec la personne. Donc, si t'es quelqu'un pour abuser, il faut l'assumer, et tu l'assumes peut-être pas longtemps.
Mais de toute façon, les parrains et les marraines, ils le verraient. Enfin, tu vois, il y a quelque chose dans le comportement qui sera pas OK.
Bien entendu.
Voilà. Mmh. Donc, après, il y a une chose qui est certaine, c'est que tous les étudiants n'ont pas les mêmes besoins. La précarité, le curseur, tu peux le déplacer sur la règle de la précarité de gauche à droite de façon très large. Ouais. Il y a des étudiants qui ont vraiment pas de quoi se nourrir. Il y a des étudiants qui ont un peu de quoi se nourrir, mais qui vont manger des pâtes midi et soir pendant 3 ans. Bah, pour moi, c'est de la précarité. Mmh. Il y a des étudiants qui ont les moyens de s'acheter un peu de nourriture un peu sympa de temps en temps, mais qui vraiment se saignent, quoi. Qui n'ont pas de vie sociale parce qu'il leur reste pas 5 euros le week-end pour aller boire un pot avec leurs potes. Et qui mentent un peu en disant, bah non, j'ai du boulot, parce qu'en fait, ils peuvent pas dire qu'ils ont pas d'argent. Qui n'ont aucune activité de loisir. Qui n'ont même pas de quoi se payer 5 euros pour aller au ciné. Alors, il y a toujours des bonnes âmes pour me dire, il y a des systèmes gratuits pour les étudiants. Ouais, ok, mais quand les jeunes, ils ont 8 heures de cours, plus les 3 ou 4 heures d'études et de devoirs à faire, plus parfois un job étudiant à côté, je peux te dire que les bons plans, ils ont plus le courage d'aller les chercher.
Ouais.
Donc, les étudiants s'inscrivent. Nous, on les appelle tous. Ça, c'est l'étape obligatoire de l'étudiant. On les appelle tous pour voir un peu avec eux, comprendre un peu leur situation, identifier peut-être des cas qui ne rentrent pas dans le cadre du CABA. Si un étudiant ne veut que des courses et qui veut pas de lien social, qui veut juste un livreur ou des courses offertes, on ne le prend pas dans le dispositif. Ouais. Parce que le parrain, il est aussi là pour apporter ce lien social, et proposer des choses, et parce que ce lien intergénérationnel et parfois interculturel, il est hyper riche. Mmh. Il est super chouette.
Ouais, top. Et du coup, si on veut aider autrement, comment on fait?
Alors, pour fonctionner, l'association, puisque tu as compris, on ne collecte rien, on ne redistribue rien. On a la possibilité, d'abord de faire un don à l'association, parce que ça, c'est une grande fierté. J'ai créé des emplois. Donc, au début, c'était des stagiaires, ensuite des alternants. J'ai toujours des alternants. J'ai signé le premier CDI de l'association en août 2022.
Génial.
Ça, c'est une jeune femme formidable que j'embrasse, Charline. Cette année, on a 2 alternants, Noran et Grégoire. Là, je m'apprête à recruter également une ou un. J'ai pas encore lancé l'offre, mais tenez-vous prêts pour ceux que ça intéresse. Responsable de développement territorial, donc pour préparer l'SMH, puisqu'on va ouvrir des antennes dans d'autres villes en France.
Génial.
Donc, on peut faire un don sur le site directement. C'est très facile à faire. Défiscaliser, je précise, pour les entreprises et pour les particuliers. On peut également en parler autour de soi, tout simplement. Tu vois ce que tu fais, Charlotte? Vraiment, merci.
Avec
plaisir.
Parce
que je sais pas par combien de personnes sont écoutées tes podcasts. Énormément, j'espère, pour toi. Et tu me le diras peut-être en off après. Mais tous ces gens-là, peut-être qu'ils n'auront pas envie de parrainer, mais ils auront peut-être envie de faire un don. Ils auront envie d'en parler à leur tour parce qu'ils trouveront le dispositif génial et qu'ils vont en parler autour d'eux. C'est cette capillarité-là qui est extrêmement efficace. Ils peuvent en parler à leur entreprise. Beaucoup d'entreprises nous soutiennent. C'est de là quand même que vient la plus grande majorité de nos soutiens financiers. Donc, dans le cadre de leur RSE, ils peuvent avoir envie de nous soutenir en proposant tout un tas d'actions qu'on peut faire ensemble. Et là, on est complètement dispo pour en discuter avec eux. Voilà, ils peuvent en parler à leurs collègues, à leur famille, à leurs copains. Voilà.
Top. Et là, aujourd'hui, du coup…
Aux universités aussi. Et oui. Aux écoles, excuse-moi. Ouais. Aux écoles et aux universités, très important pour que les… Alors, pourquoi je précise et les écoles aussi? Parce qu'on a à peu près 10% d'étudiants qui viennent d'écoles privées.
OK.
Dans le top 5, il y a l'EM Lyon. Tu le sais, chez nous, on a des étudiants de l'EM Lyon qui sont parrainés au CABA quand même. Ouais. Alors, des gens nous disent… Ben, comment c'est possible, quoi,
s'il a ouais, mais ça m'étonne pas, parce que moi, je vois, j'étais en école de commerce, j'avais un de mes copains qui habitait à Clichy, son papa était mort, sa maman était nourrice, il était obligé de bosser à la FNAC plusieurs fois par semaine et tous les samedis pour pouvoir juste payer son emprunt étudiant. Et alors, il vivait chez sa maman, mais n'empêche que il fallait.
Tu te rends compte, Charlotte, elle est où l'égalité des… Alors bon, je sais qu'on ne vit pas dans un monde idéal de bisounours où tout le monde a la même égalité des chances. Je suis pas complètement sotte non plus. Néanmoins, je pense que vraiment, on est rentré, on pousse de plus en plus les jeunes à faire des études. Ok, très bien, pourquoi pas. Même si je pense qu'ils sont pas tous obligés d'aller à Bac plus 5, hein, parce que, mais voilà, aujourd'hui, on leur dit que s'ils ont pas Bac plus 5, ils ont pas de chance de se faire recruter. Je trouve ça très dommage. Mais en tout cas, un jeune qui doit bosser 20 heures par semaine pour subvenir à ses besoins, il aura jamais la même chance que tes enfants ou mes enfants qui vont pas être obligés de travailler. Parce que on n'est pas riches, toutes les deux. On a quand même les moyens de les accompagner. On aura quand même les moyens de les accompagner. Enfin, toi, ils sont plus jeunes, les tiens. Mais moi, j'ai quand même eu les moyens de les accompagner. Donc, tu vois, je trouve que l'égalité des chances, elle est pas là pour tout le monde. Donc, l'objectif, c'est pas non plus de sauver le monde. J'ai pas cette ambition-là, de sauver tous les étudiants en difficulté. Mais si on peut, et on est nombreux à avoir envie de les aider pour un peu plus de justice, tant mieux. Donc, il faut informer les universités pour qu'elles relaient le dispositif auprès des étudiants et les écoles privées également.
Ouais. Comment t'écoutes ton intuition?
En faisant. Je fais. En fait, je suis quelqu'un qui se pose à la fois beaucoup de questions. Je suis assez cérébrale. Je me torture pas mal. Mais en même temps, je sens, en fait. Je le sens à l'intérieur. Et de plus en plus, quand je rencontre quelqu'un, je me dis, t'as un léger malaise. Est-ce que c'est parce que t'as pas écouté? T'as pas su bien écouter, t'as pas posé les bonnes questions, t'as pas bien compris. Enfin, malaise. Tu vois, il y a un truc qui… Ou alors, c'est que vraiment, tu sens qu'il y a un truc qui est pas à sa place, quoi. Mais ça veut pas dire que c'est pas des gens bien et tout ça, hein, mais c'est juste que le truc est pas à sa place. Je le sens, en fait. Je le sens au fond de moi et je pense que, en vieillissant, peut-être qu'on arrive mieux à entendre maintenant. Je suis sûre que j'entendais avant, mais que j'écoutais pas. mon compagnon me dit toujours, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas assez, Marie. Tu n'écoutes pas.
Comment tu célèbres tes réussites?
Je les célèbre pas. Pourquoi tu veux que je les célèbre? C'est normal ce que je fais, non? Non, c'est pas ça qu'il fallait répondre. Non, mais ça me fait rire parce que j'écoute pas mal tes podcasts et c'est une question que tu poses. Et donc, je me la suis posée. J'en parle. Je les partage. Ce qui est assez nouveau. Maintenant, j'en parle. Tu vois, je rentre à la maison. Nous, on passe beaucoup de temps à table chez nous. On est tous des super bavards et on se raconte nos journées. On se raconte nos journées. Et du coup, tu vois, s'il y a un nouveau partenaire qui vient nous proposer son aide, si on a eu des histoires de parrains et de filleuls et de marraines complètement dingues, parce qu'on reçoit des témoignages tous les jours, hein, par mail, par les réseaux sociaux, par les messageries privées des réseaux sociaux. Enfin, ça rentre, tu sais, c'est comme l'eau, hein, ça trouve sa voie. On reçoit des photos. Donc, on raconte. Tu vois, par exemple, là, maintenant, depuis quelques temps, il y a des premiers étudiants qui ont été parrainés, par exemple, en 2021. On est en janvier 2023, oui. Qui ont fini leurs études en juin 2022, par exemple. Et ils se sont inscrits comme parrains, Charlotte.
Ah, c'est génial.
C'est pas une dinguerie, ça?
Ah, c'est fou.
C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de l'aide, on est dans le présent. On est dans le présent parce qu'on les aide maintenant. On est dans le futur parce qu'on les aide à devenir des adultes plus forts et qui vont grandir avec moins de notions de peur, d'accord ? Donc on les aide à se préparer à devenir des adultes plus forts et mieux construits. Mais on est aussi dans le futur parce qu'en fait, on plante des petites graines. En fait, sans m'en apercevoir, je me rends compte que ce que j'ai créé, ça plante des petites graines dans l'esprit de jeunes qui ont peut-être pas eu la chance parce que leurs parents, tu vois, tu parlais de ton pote, de ton collègue de classe à Clichy, il y a quand même des familles, ils arrivent quand même à être solidaires, mais enfin, ils sont quand même dans le combat quotidien, quoi, pour payer le loyer, pour manger. Ça les empêche pas d'être solidaires. Mais peut-être qu'ils ont, et il y en a qui ont même pas le temps de l'être, quoi, et qui ont pas été éduqués là-dedans. Et ces jeunes, quand ils ont pas connu cette solidarité-là, ben, en fait, ça l'a fait germer dans leur esprit. On plante cette graine dans leur esprit. Entends-moi bien, hein, encore une fois, je dis ça avec beaucoup d'humilité, hein. Je suis pas en train d'imaginer que c'est moi qui suis en train d'enseigner la solidarité. J'ai rien inventé. La solidarité de quartier, elle a toujours
été. Non, mais tu la propages.
Elle a toujours, voilà, je la propage. D'abord, la solidarité de quartier, elle a toujours existé. Mes parents en sont la preuve vivante. Il y a des millions de gens qui sont comme ça en France. Simplement, je la formate, enfin, je l'organise et je la rends accessible avec cette plateforme à tous ceux qui ont peut-être pas le courage d'aller la chercher eux-mêmes. Il y a plein de gens qui osent pas aller voir leurs voisins pour leur proposer de les aider. Il y a plein de gens qui osent pas ça. Alors que nous, on leur apporte ça. Donc ça, c'est assez innovant. Et il y en a plein qui nous disent, mais c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Merci de l'avoir créé. On pourrait leur dire, bah, vous auriez pu, mais on leur dit pas. D'abord parce que ça serait un jugement et que j'ai pas envie d'être dans le jugement. Et c'est OK. Très bien. Voilà. Tu sais, c'est ce qu'on appelle en marketing le time to market. Voilà. On est là au bon moment et voilà.
C'est ça. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi?
Ben, tout le temps. Quand je suis partie aux États-Unis à 21 ans, quand j'ai décidé que je ferais du marketing et de la communication alors que j'avais abordé ça de façon assez superficielle à l'IUT, et que je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas moi, en fait, je vais y arriver, quoi. Et puis, quand je me suis dit, bah en fait, je vais créer mon job, donc bah je vais monter ma boîte. Et puis, bah en fait, tout le temps. Tu m'as demandé ce qui me faisait peur ou si j'avais eu peur quand j'avais monté ma boîte. J'ai peur de certaines choses dans la vie. L'abandon, la hauteur, j'ai ultra le vertige, mais affreux, comme toi, je sais. Peur de l'avion, mais ça y est, ça va mieux. Mais le reste, dans le boulot, j'ai pas peur. Non. Donc, parfois, j'ai peur d'aller aborder des gens, tu sais, Charles. Parfois, je me dis, non, mais en fait, je vais pas aller lui parler. Lui, il va me regarder. Il va se dire, mais elle est folle. Qu'est-ce qu'elle me veut? Alors, j'ai trouvé une super tactique, mais je pense que je suis pas la seule à l'utiliser. Je trouve que LinkedIn est hyper fort pour ça. Tu vois, je vais à Paris la semaine prochaine, pour recevoir le premier prix Solidarité Version Fémina qui a été,
Ah, c'est génial, bravo.
À l'assaut. Et j'en profite pour rester à Paris et rencontrer plein de gens. Et il y avait des gens que j'avais vraiment envie de rencontrer. Eh ben, j'utilise LinkedIn. Je trouve que c'est un super premier paravent, tu sais. Parce que je connecte les gens sur LinkedIn, je leur envoie un message, je leur dis, bah voilà, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, et j'aimerais bien vous rencontrer parce que je pense que vous avez des choses à m'apprendre ou j'ai envie de partager ça avec vous et tout ça. Et du coup, ça me permet d'oser. Parfois, je me sens pas légitime à aller, aborder les gens, et en fait, tu te rends compte que les gens, ils sont hyper contents quand tu viens leur demander soit de l'aide, soit des conseils, voilà.
Ça les valorise.
Ouais, pas que. Je crois qu'il y a aussi l'envie de transmettre et de partager. C'est pas qu'une question d'ego. C'est aussi l'envie de. Il y a plein de gens comme moi qui ont envie de partager. Quand j'ai des jeunes qui m'envoient leur CV, je leur renvoie un mail de 30 lignes en leur donnant des conseils sur ce qu'ils doivent améliorer sur leur CV, même si je les embauche pas, quoi. Tu vois. On est nombreux à avoir envie de partager ce qu'on sait déjà. Voilà.
C'est quoi pour toi la réussite?
Oh bah clairement, c'est d'être à sa place. Hein. Ça faisait quelques années, j'ai adoré mes clients chez Planète, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant bientôt 13 ans. Vraiment, parce que je peux pas dire que j'ai choisi mes clients, mais j'ai quand même toujours, je suis jamais allée chercher des très gros budgets dans des grosses boîtes. J'avais envie de bosser avec des patrons de boîtes parce que c'était leur bébé, que c'était leur trip, et que j'avais envie de vraiment qu'ils me partagent leur vision. Alors j'ai bossé avec quelques directeurs ou directrices marketing ou communication, mais j'ai beaucoup bossé avec des entrepreneurs en direct et j'ai adoré ça. Mais je reconnais que ça faisait quand même quelques années que j'avais non pas fait le tour de la question parce que ça voudrait dire que je savais tout sur tout, c'était pas ça, mais que j'avais plus envie. J'avais beaucoup moins envie et que j'avais vraiment, j'y trouvais plus beaucoup de sens. Alors, attention, je pense pas qu'il faille que tout le monde fasse de l'écologie, fasse des savons solides, fasse que des trucs, tu vois, qui vont, voilà. Mais j'y avais quand même des clients que j'avais, si tu veux, où je me disais, mais est-ce que le monde a besoin d'un énième produit comme ça, qu'il faut qu'on fasse une plaquette et ainsi. Et particulièrement pendant le Covid, ça a été assez violent. Mais c'était, je reconnais que c'était déjà le cas un peu avant. J'avais plus la niaque. J'avais beaucoup moins envie et donc, mais sauf que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je ne sais rien faire d'autre que de la communication. Je ne sais rien faire d'autre. Et puis voilà, jusqu'au cabas. Donc, ta question c'était,
c'est quoi pour toi la réussite?
Voilà. Eh ben, c'est être à sa place. C'est en aucun cas l'argent. Il y a des gens pour qui c'est le cas. Bon, moi, je le respecte. Tant mieux pour eux. C'est pas mon cas. C'est vraiment d'être à sa place parce que Charlotte, mais c'est tellement kiffant d'être à sa place. Kiffant. Et peut-être que dans 10 ans, je ne me sentirai plus à ma place et ça sera ok parce que j'aurai fait quelque chose de chouette et je serai hyper fière parce que hier soir, j'étais à un événement et quelqu'un m'a dit. C'est quoi ton plus grand rêve pour le cabas? J'ai dit, mais c'est que ça vive bien après moi.
Aujourd'hui, tu es à 100% du coup sur le cabas, t'as arrêté Planète Com?
J'ai arrêté Planète, ouais, tout à fait. Ça a été une décision, qui en même temps a été longue à prendre et en même temps pas si longue. Parce que pour tout te dire, peut-être une dizaine de jours après avoir lancé l'initiative, bah du coup, quand on a été submergé de boulot, on s'est dit non mais là, il faut qu'on trouve de l'aide. Donc pour prendre des stagiaires, il faut qu'on se structure. Et surtout, il y a des entreprises qui nous ont tout de suite contactés pour nous proposer leur aide et leur aide financière. Donc quand tu as une boîte qui t'envoie un mail et qui te dit « On adore ce que vous faites, on trouve ça génial, nous aussi on veut aider, on a débloqué des fonds, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre RIB ?» Je leur ai dit, mais j'ai pas de RIB, en fait, parce que moi, je suis une citoyenne. Enfin, non, en fait, non. Donc, une entreprise, des entreprises. Donc là, on s'est dit, OK, il faut qu'on se structure en association. Donc, on a créé l'association Un cabas pour un étudiant, dans laquelle elle n'est plus du tout aujourd'hui. Mais du coup, on n'avait pas le choix. Donc, on a pu prendre des stagiaires, on a pu collecter des fonds, un peu de subventions publiques, mais très peu. On est plutôt vraiment sur nous, sur du mécénat privé et sur du don de particuliers. Mais tout de suite, en fait, je me suis dit, mais en fait, Marion, mais qu'est-ce que c'est que cette idée dinguissime que t'as eue? Avec de l'humilité, hein, mais quand même dingue. Et je me suis dit, c'est tellement évident. Un jour, ça va être mon job. Mais pendant 2 ans, j'ai quand même continué ma boîte parce que d'abord, si tu veux, le modèle économique d'une asso, principalement, en tout cas comme la nôtre, c'est quand même le don, le mécénat. Déjà, faut assumer le fait à un moment donné d'aller quelque part prendre de l'argent. Mais cet argent, il n'est pas enlevé de des étudiants puisque on fait pas de collecte.
Donc,
nous, c'est notre les soutiens financiers servent à faire fonctionner l'association. S'il n'y a pas plus de salariés, il n'y a pas d'association, il n'y a plus de parrainage. Et ceux qui me disent prenez des bénévoles, non, ça n'est pas possible pour beaucoup et en tout cas pour le fonctionnement de base de l'association, ça n'est pas possible. Les bénévoles, ils sont pas à 100% et tu peux pas gérer des parrainages, gérer du suivi, gérer des inscriptions et tout ce qui se passe derrière, donc je rentrerai pas dans les détails, avec des bénévoles qui viennent 2 heures par semaine ou une après-midi par semaine. Ça n'est pas possible.
Ouais, c'est pas. Je sais que chez à l'association Petit Prince. Alors j'ai plus le nombre de jours qui est demandé, mais je me demande dans quelle mesure c'est pas 2 ou 3 jours par semaine. Enfin, c'est vraiment un investissement de temps qui est énorme, mais en même temps, si tu veux pouvoir aider à réaliser des rêves, il y a pas le choix en fait.
Mais parce que c'est de la présence auprès des bénéficiaires.
Oui, c'est ça.
Sur aussi. Terrain, comme moi, mes parents, mais comme moi, mes parents oui. Et mes étudiants. Mais ouais. Là, on parle du back office.
Oui, oui, on est bien d'accord.
On est exactement. On est quasiment en mode de start-up entrepreneurial. Moi, j'applique à l'association, entre guillemets, en grande partie les mêmes méthodes qu'à l'entreprise. C'est aussi pour ça que ça fonctionne. D'accord? On n'est pas dans un monde de bisounours. On a des bénévoles, attention, mais on a des bénévoles au-delà de, je parle pas des parrains et marraines. On a des bénévoles, qu'ils soient parrains, marraines ou pas, qui viennent nous aider. Par exemple, on fait au mois de septembre des forums d'assaut. On a fait que Lyon c'est l'année dernière, mais là, on va en faire dans toutes les villes. Ben, on a besoin de parrains qui viennent tenir les stands. Voilà, donc on a des parrains qui viennent nous aider pour, enfin des bénévoles qui viennent nous aider pour plein de choses. Mais pour le fonctionnement propre quotidien, 5 jours par semaine de l'assaut, c'est pas possible. Ouais. Donc on a besoin de fonds. Et donc voilà. Mmh. Et donc j'assume complètement le fait que, mais il m'a fallu quand même des mois de travail, je te jure là-dessus, sur le fait que je crée de l'impact. Cet impact, évidemment, s'il y avait pas les parrains et marraines, ça n'existerait pas. Mais c'est quand même moi qui l'ai créé, Charlotte. Et c'est ok de tu vois, c'est pas de l'ego, c'est pas être prétentieux de dire ça. Mais tant que tu n'arrives pas à l'intégrer, tu ne te sens pas légitime pour te payer dans ton association. Donc c'est hyper important de faire ce travail. Et donc oui, je vais être salariée, alors pas de l'association, mais du fonds de dotation qui est l'organe de collecte. Mais voilà, voilà, et l'association c'est vraiment l'opérationnel. Et ouais, j'assume que je crée de la valeur. L'idée est top, elle fonctionne. J'ai une génialissime équipe que j'adore, que j'embrasse, Charline, Noran et Grégoire. Grégoire s'occupe de la communication, Noran des parrainages, Marie qui est en service civique, qui a 18 ans, elle est incroyable, t'as l'impression que ça fait 5 ans qu'elle bosse, une maturité de dingue, et puis ma précieuse Charline qui est ultra investie, ultra engagée, aussi bien sur la recherche de fonds que le management de l'équipe. Moi, je suis vraiment très très chanceuse. Voilà, très chanceuse.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Marion de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Ma première réponse aurait été de te dire j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Et en même temps, peut-être qu'elle dirait waouh, mais comment t'as fait pour en arriver là? Et comment t'as fait aussi pour t'as été forte. J'ai traversé plein de trucs, et notamment ces 3 dernières années, au-delà du Covid. T'as été costaude quand même pour en arriver là. Moi, je dirais peut-être un truc comme ça. On est résilientes, nous, les femmes, je crois. Bon, les hommes aussi.
C'est sûr. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements avec ton association?
En fait, j'ai jamais l'impression de renoncer à quelque chose. Je choisis, mais j'ai pas de frustration. Ce truc, c'est que je voyage pas assez. Mais non, mes choix de... Ah non, alors aucun... Si la question, c'est vraiment par rapport à planète, est-ce que je regrette En fait, si tu veux, dans un cabas pour un étudiant... J'opère de la communication, du marketing, du management, de la solidarité, de la, entre guillemets, de la relation client. Enfin, tu vois, c'est pas la relation client, mais de la relation avec les utilisateurs, de l'humain, de, mais non, mais ça coche, mais toutes les cases, mais tu peux pas t'imaginer. C'est aussi pour ça que je suis à ma place. Et c'est aussi pour ça que ça fonctionne très bien. Bien sûr.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie?
Oh, excuse-moi, c'est l'émotion qui est arrivée comme un tsunami. Je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu mes 2 parents là ces 3 dernières années. Je pensais qu'à 50 ans, tu sais, j'ai vu des gens autour de moi, dont mes amis, perdre leurs parents à 40, 45 ans, 50 ans. Tu te dis, c'est la suite logique, c'est leurs parents, tu vois. Et je regrette tellement de pas avoir été plus attentive et plus à l'écoute de leurs ressentis. Mais en fait, tu peux pas. En fait, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas. Parce qu'en fait, à n'importe quel âge, parce que j'ai rencontré des gens qui ont perdu leurs parents à 70 ans. Clairement, mes oncles et tantes, hein. Parce qu'en fait, mon père, il avait 75 ans. Et donc, il avait des frères et sœurs. Et ma grand-mère est morte après lui, tu vois. Donc, elle a perdu son fils. Mes oncles et tantes, je les ai vus perdre. C'est hyper dur. Et en fait, ça c'est assez difficile. Bon, malgré tout, ça reste dans la suite logique, des choses. Mais je reconnais qu'à n'importe quel âge, j'ai une pensée, pour tous ceux qui ont traversé ça récemment, qui vont le vivre, à n'importe quel âge, c'est difficile. Passer du temps avec vos parents, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec eux, passer du temps. avec eux.
C'est quoi tes peurs aujourd'hui ?
Clairement, il faut que je prenne un peu plus soin de moi. Je travaille trop. Je prends pas assez soin de moi. Quand je te vois passer, nager tout le temps et tout, je me dis, oh là là, mais tu es mon modèle. Oh. Mais non, ma peur, oui, ça serait que que ma petite voix au fond de moi qui me dit, Marion, tu vas avoir 52 ans dans quelques jours. Il faut que tu prennes soin de toi, que tu fasses de l'exercice. Enfin, je vais pas me mettre à courir des marathons. Hein. J'ai couru une époque, mais tu prennes plus soin de toi. Ouais, ma peur, ça serait peut-être de voilà qu'il m'arrive une cochonnerie parce que je ne suis pas assez occupée de mon corps, qui a bien souffert ces dernières années. Et ma peur, sinon, je vais te dire, tu sais ce que c'est drôle, c'est incroyable que tu me poses cette question. Ce matin, en m'habillant, je me disais. J'écoutais la France Info et j'entendais parler de la crise en Ukraine, évidemment. Et je me disais, ce qui me fait très peur, c'est que un jour, la guerre en Ukraine va se terminer, je le souhaite. La crise va se terminer, ça va aller mieux. Et un jour, on va plus parler de la crise. Et les gens vont nous dire, il y a plus la crise, donc ça va mieux. Exactement comme on nous a dit en septembre 2021, quand tu sais, les facs ont rouvert, les restaurants ont ouvert pendant l'été, et on a entendu beaucoup de gens nous dire, pas tous évidemment, heureusement, mais beaucoup nous dire la crise est finie, donc les étudiants, ils n'ont plus besoin. Et ma crainte, c'est qu'on nous dise ça dans quelques mois et que du coup, il y ait à nouveau un creux, tu vois, dans le cabas et qu'on rame pour refaire sensibiliser, évangéliser et faire prendre conscience que non, dans notre pays, un étudiant sur cinq vit sur le seuil de pauvreté depuis peut-être 10 ans ou 15 ans et un étudiant sur trois saute des repas faute de moyens. Ça, c'est une réalité. Ça représente, à la rentrée 2022, 590 000 étudiants, Charlotte. Donc, ouais, ma peur, c'est ça. C'est qu'on oublie à nouveau les étudiants qui sont quand même le socle de notre société de demain. C'est pas uniquement parce qu'ils vont payer nos retraites. Mais aujourd'hui, si on les fait grandir dans la notion de peur et de manque, mais en fait, notre société, elle est beaucoup plus en danger que si on les aide à grandir avec la notion d'entraide et de lien. En fait, c'est pas eux qu'on aide, c'est nous aussi. En faisant ça, en les parrainant et en les aidant.
De quoi tu es la plus fière ?
Ce sont terribles tes questions.
Pourtant, tu les connais en plus.
mais en fait, tu sais, je me suis surprise à me dire, allez, je vais écouter des podcasts, puis comme ça, je vais me préparer. Et en fait, pas du tout. En fait, tu te dis, non, en fait, chacun tes questions, puis en fait, tu oublies. Les réponses, et je pense que c'est bien de pas se préparer. Je suis fière de plein de choses. Je suis fière que mes parents, m'aient élevé là-dedans parce que cette solidarité, c'est grâce à eux et que cette idée, c'est un combo de qui je suis, donc une partie d'inné et une partie d'acquis par mes parents et de ce qu'ils m'ont donné. Je suis hyper fière que ma fille, qui est partie de la maison il y a 6 mois, m'appelle pas très souvent. Et que ça veut dire qu'en fait elle est heureuse et qu'elle se débrouille et qu'elle n'est pas fusionnelle avec moi et accrochée à moi. Je suis fière moi d'arriver à tenir le coup, de pas l'appeler du tout trop souvent non plus, tu vois, parce que je la sens épanouie, donc du coup je suis rassurée. Je suis fière de mon fils, qui il y a 3 mois a vidé tous les réseaux sociaux de son téléphone et tous ses jeux parce que il était devenu tellement addict qu'il s'est dit c'est plus possible, j'y arrive plus, et qu'il s'est remis au boulot. Je suis fière de ce que j'ai créé avec le CABA, mais évidemment que je suis fière. Je suis fière de créer des emplois. Je suis fière de la manager que je suis devenue, qui est pas du tout la même que celle d'il y a 2 ans, qui a vachement évolué. Je suis fière d'écouter. Je suis fière de plein de choses.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
Ça me vient pas à l'esprit. Honnêtement, j'en vois pas. Peut-être écoute plus ta petite voix. Et je veux dire une chose aussi, ma grand-mère, quand j'étais plus jeune, elle devait avoir une 60aine d'années, elle me disait tout le temps, j'aimerais avoir 20 ans et savoir ce que je sais. On pourra jamais changer le fait que les jeunes vont faire des erreurs, ils ont besoin de faire leur parcours comme nous, tu vois. Nos parents nous ont dit ça, nous ont dit ce qu'il fallait faire, on n'a pas écouté. Parfois ils avaient raison, parfois pas. J'essaye un peu de transmettre sans être ingérente. Moi, je suis sûre que je suis de temps en temps. J'essaye de moins l'être. J'essaye de transmettre. Mais on pourra jamais avoir 20 ans et savoir ce qu'une personne de 60 ans sait. En revanche, je dis de plus en plus souvent, La réponse, tu l'as un peu au fond de toi si tu apprends à écouter, mais c'est pas facile. C'est pas facile, Charlotte, de s'écouter. Ça veut dire quoi, s'écouter? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Il faut différencier l'envie et le besoin. Est-ce que, il faut d'abord apprendre aux jeunes à.
Et puis, est-ce que c'est ce dont j'ai envie, c'est mon mental ou est-ce que c'est.
Le cœur. Absolument. Mm. Et ça, il faut qu'on apprenne aux jeunes à réfléchir beaucoup plus avec le cœur et les tripes qu'avec la tête.
C'est sûr. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Ah mais je sais pas, je suis sûre qu'on m'en a donné. En fait, on m'en donne tous les jours et j'apprends tous les jours. Je sais pas Charlotte. En fait, on m'en donne tout le temps, donc j'en ai pas un qui me vient. En plus, j'ai plus une super bonne mémoire là, depuis quelques années. J'ai un peu de charge mentale. Je sais pas, mais probablement que quelqu'un. Si je sais. Géraldine, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Je suis pas sûre qu'elle écoutera, mais elle va se reconnaître. C'est pas vraiment un conseil, mais c'était un conseil qui était sous forme d'un objet. À l'époque où je me posais les questions de monter ma boîte, de créer mon job, tu te souviens, Planète, elle m'a offert un carnet, donc j'étais salariée. Elle m'a offert un carnet bleu, j'ai toujours la photo dans mon téléphone. Il y avait marqué notebook dessus. J'étais fan des carnets, un peu, mais depuis je le suis devenue beaucoup plus. Et en fait, ce carnet, je me souviens qu'elle me l'avait offert pour que j'écrive mon projet dedans. Parce que je lui en avais un peu parlé. Et ça, ce carnet, ça voulait dire, t'as le droit, Marion. T'as le droit et t'es capable. Merci Géraldine, je t'embrasse.
Est-ce que t'as un conseil de lecture à partager avec nous?
J'ai adoré. Alors moi, je lis pas de bouquins de développement personnel et tout ça, tu vois. Donc, je lis pour me détendre et me faire plaisir. J'ai kiffé, mais alors comme jamais. Là où se cachent les écrevisses. Non, là où il y a un film qui est sorti. Voilà, je vois que tu tapes et que tu cherches.
Là où se cachent les écrevisses.
Là où se cachent les écrevisses. J'ai vu le film. Bon, perso.
Non, ou là où chantent les écrevisses.
Là où chantent les écrevisses. Le film est à des années-lumière. En fait, il y a un descriptif de la nature du marais qui est absolument incroyable. Je suis en train de finir Femme puissante d'Elia Salamé, que je trouve assez chouette, même si je trouve qu'elle tourne un peu trop autour de la maternité, de la féminité, parce que je pense que nous, les femmes, on est des êtres humains et on n'est pas que des femmes aussi, tu vois. Donc voilà. Là où chantent les écrevisses. Si vous aimez les descriptions de la nature et de vraiment vous sentir dans le bouquin, dans l'histoire. Allez-y.
Super. Donc, si les personnes veulent t'aider, donc deux solutions, enfin plusieurs solutions, en parler à son entourage, être parrain ou marraine si tu habites à côté d'une grande ville et que tu as du temps à offrir, et ou faire un don.
Absolument, absolument. En parler aux universités, aux écoles, voilà. Donc un peu de temps à passer avec l'étudiant. Alors il n'y a pas d'obligation de fréquence, voilà, mais on leur explique tout ça en visio. Ils peuvent nous contacter donc sur le site uncabapourunétudiant.fr.
Donc c'est le chiffre 1.
Ouais. 1, c'est ABAS, le chiffre 1, POUR, étudiant.fr.
Pour voilà, unétudiant.fr. De toute façon, je mettrai le lien sur le site pourquoipasmoi.co.
Voilà, et on peut me contacter sur mes réseaux sociaux. Je réponds très facilement et très rapidement, LinkedIn, Insta, sans problème.
Super. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Ah, je veux remercier mon cercle ultra ultra proche, ultra privé, mes enfants bien évidemment, qui m'ont supporté pendant l'escalade du Kaba, parce que je peux te dire que je me suis pas beaucoup, même s'ils étaient grands. Franchement, j'ai calculé personne pendant des mois. Ça a été incroyable. Après, voilà, on a toujours beaucoup bossé, mais vraiment, les premiers mois ont été absolus. Mon compagnon Frédéric, que j'aime profondément et qui, dans son métier aussi de coach en développement personnel, nous accompagne beaucoup sur la compréhension de l'humain et me supporte et me supporte dans le double sens, hein, t'as compris, dans cette aventure assoprenariale. Voilà, je suis une assopreneur aujourd'hui. Entrepreneuriale et assoprenariale, qui me prend beaucoup de temps, donc il est patient et il est de très bons conseils. Et puis ma sœur et sa famille, sans qui les dernières années auraient été très très compliquées, encore plus compliquées. Et puis bien sûr tous les parents et marraines, parce que sans eux le CABA n'existerait pas, et les étudiants. Je remercie très souvent les étudiants pour accepter cette main tendue parce qu'il leur faut du courage.
Voilà. Merci Marion.
Merci à toi Charlotte pour ton invitation.
Avec plaisir, et puis de toute façon on donnera des nouvelles de l'association via la newsletter ou via Insta ou LinkedIn.
Merci beaucoup.
Merci.
J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.